Nous allons. Et il s'agit donc de la session sur les noms de domaine internationalisés.
Ted,
est-ce que vous pouvez ouvrir les micros au panel, s'il vous plaît?
Hello.
Okay. Bonsoir, nous travaillons maintenant. Bonsoir et bienvenue à la session sur les noms de domaines internationalisés. Nous sommes, bien sûr, nous recouvrons le même temps que deux des championnats de la Coupe mondiale. Nous allons, bien sûr, vous transmettre les scores. Alors, c'est Slovénie-Inde et US-Algérie. Soyez sûr que nous allons vous dire les scores. Commentaire hors micro. Vous avez tout le droit d'être tout à fait content pour les scores. Nous avons une heure et demie sur le sujet des IDN et ce que vous voyez sur l'écran et l'agenda, donc l'ordre du jour. D'abord, nous allons voir comment tout ceci se passe avec le processus accéléré de CCDLD et IDN. Et pour que ceci soit plus intéressant, j'ai l'honneur de vous dire que nous avons trois intervenants, un de Russie, un d'Arabie Saoudite et un des Émirats Arabes Unis. Et ils nous donneront des informations sur ce qui va se passer après le lancement. Puis nous allons parler de la gestion des variantes d'IDN. Par la suite, nous allons regarder les défis et voir si nous pouvons discuter ce sujet. Et puis, bien sûr, nous allons écouter l'expérience de CNNIC et WNIC, donc sur leur expertise en gestion de variantes. Les présentations, nous allons essayer de les faire aussi brièvement que possible pour que vous puissiez avoir la parole et que nous puissions avoir un dialogue sur les sujets. Nous allons ouvrir donc les micros après chacun de ces deux sujets. La première chose à dire, c'est félicitations pour les premiers quatre CCTLD IDN. C'est la première réunion. Félicitations aux quatre. Vous pouvez les voir à l'écran. Tout se passe très bien et tout fonctionne et vous pouvez les essayer. Nous allons en entendre parler beaucoup plus tout à l'heure. Nous allons parler de l'état général, du statut pour la première fois concernant la procédure accélérée. Nous avons 31 demandes au total qui représentent un total de 19 langues. Du côté de l'ICANN, nous traitons ceci aussi rapidement que possible. Et bien sûr, nous suivons toutes les procédures qui sont définies dans la procédure accélérée. un autre sujet d'IDN. Très brièvement, nous avons donc les GTLD IDN. Nous avons eu des expressions d'intérêt, de besoin pour ceci. Ils seront disponibles dans le programme des nouveaux GTLD qui va être lancé. Et il y aura beaucoup de rencontres à ce sujet cette semaine. Puis avons le sujet de l'utilisabilité en général des ITN. Nous voyons des défis supplémentaires. Il y a des demandes où les choses fonctionnent et d'autres où les choses ne fonctionnent pas. Il ne s'agit pas uniquement des IDN, mais les IDN font partie de ceci. Vous verrez ce que vous allez voir du personnel de l'ICANN et toutes les personnes. Et j'espère que toutes les personnes de la communauté vont nous aider. Nous espérons que vous allez donc participer plus aux événements et avoir plus d'informations sur l'avancement et les progrès. Et puis, nous allons commencer ici, le 1er juillet, un des projets qui va se passer donc sur l'utilisabilité. Puis nous avons bien sûr le projet de gestion des variantes de TLD. Nous allons parler des initiatives. Puis nous avons les directives IDN, le groupe de travail sur la révision des directives des IDN qui veut fournir des mises à jour concernant les protocoles. Nous avons essayé de voir si nous pouvions avoir cette révision avant la réunion et nous n'avons pas pu l'avoir. Les délais étaient trop courts. Vous pourrez la consulter après la rencontre. Elle sera donc proposée, cette révision sera proposée à la consultation publique. Et enfin, le dernier projet sur la liste, c'est un état général, une mise à jour de l'état général de l'IETF, donc de l'équipe d'ingénierie. Et je pense que c'est sur le protocole email internationalisé. On verra qu'est-ce qui se passe du point de vue mise en œuvre de logiciels de messagerie. Toutes ces choses sont en cours. Même si nous avons les quatre premiers IDN déjà en ligne, ça ne veut pas dire que nous avons fini. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Concernant la procédure accélérée, je voulais mentionner la révision de cette procédure qui fonctionne vraiment très bien. Nous avons certains éléments qui prêtent à confusion dans certains pays. Mais je pense qu'en général, il s'agit de détails mineurs et avec tout ce que, comme tout, pour tout le reste, toutes les procédures sont révisées et la révision de ce processus aura lieu en novembre. Il faudrait prendre note que nous avons cette révision, que nous aurons notre révision et nous aurons besoin de vos commentaires. Nous avons donc les sujets de transparence et de timing. Quand la candidature soumise à l'ICANN devient publique, et plutôt que tard, clarification et documentation du soutien de la communauté, il y a des débats concernant ce qui veut dire du point de vue, quelle est la signification, quel est le sens du soutien de la communauté. Des litiges concernant une similarité qui prête à confusion. À ce jour, nous n'avons pas encore eu de litige entre des pays et des territoires ou quelque chose de similaire. Donc ça fonctionne bien. Et enfin, le dernier point concerne les décisions et le processus de gestionnaire de CTLD-IDN. Ceci se passe après l'évaluation de la chaîne demandée par le candidat. Je ne pense pas qu'il y ait des sujets qui aient besoin de changements ou dont les changements pourraient avoir un impact très grave. Donc, veillez, faites attention à tout ceci. Et je voudrais, bien sûr, nous voulons que vous participiez activement. Je vais demander maintenant, nous avons les trois messieurs des États arabes, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et de Russie. Chacun d'entre eux va participer, va partager son expérience. Je voudrais demander à Mohamed Al-Erouni de se présenter le premier, de parler le premier de son expérience. Merci Tina pour cette introduction. Je suis très heureux d'être ici, mesdames et messieurs. Je m'appelle Mohamed Al-Erouni et je suis le directeur de DOT UAE. Nous sommes les opérateurs de registre pour les Émirats Arabes Unis, le code, donc le CCTLD et le CCTLD-IDN qui est DOT Emirates pour le pays. C'est mon plaisir d'être ici pour présenter notre expérience avec les IDN et la partager avec la communauté pour le bénéfice de tout le monde. D'abord, avant de passer à la discussion de notre expérience, je vais vous expliquer notre position en tant qu'opérateur de registre, gérant le modèle de registre bureau d'enregistrement aux Émirats. Nous avons environ 15 à 16 registres en fonctionnement et l'utilisateur final a la possibilité de choisir des noms de domaine de par leur interface. Toutes ces interfaces sont liées à nous en utilisant un système IPPP. Tout est automatisé, soit pour DOT UAE ou pour DOT Emirates. Pour commencer avec le contexte, comme vous le savez, les noms de domaine ont commencé par utiliser d'abord seulement des ASCII et il y a eu des besoins de plus en plus de soutenir les langues des pays dans les noms de domaine pour faciliter aux utilisateurs l'utilisation de l'Internet dans leur langue maternelle. Et c'est pour cela que nous avons pris cette initiative et nous avons fourni tous les efforts pour être les pionniers de cette initiative et introduire le nom de domaine arabe à la communauté. Je vous donne un exemple de comment ceci fonctionne chez nous. Un particulier peut enregistrer un nom de domaine en arabe auprès d'un bureau d'enregistrement accrédité par le biais d'une transaction manuelle ou autre. Cela dépend des services que le bureau d'enregistrement offre. Lorsque nous passons aux variantes, nous pensons que les variantes ont un rôle très important dans l'introduction du DOT Emirat au CCTLD. Nous avons fait une consultation avec notre communauté et le gouvernement et nous avons vu beaucoup de soutien envers la mise en œuvre des variantes avec le nom de domaine lui-même. Et nous avons identifié deux grandes raisons pourquoi les variantes sont importantes pour les communautés. D'abord, parce que vous aurez une meilleure accessibilité et deuxièmement, vous réduirez l'hameçonnage et le typosquattage. Je vais expliquer ceci dans quelques diapos par la suite. Nous avons mis en œuvre des variantes dans la langue arabe parce que nous comprenons que certains caractères peuvent prêter à confusion et en même temps, à part prêter à confusion, le domaine en arabe, il y a toujours des gens qui se confondent entre la saisie de certains caractères et certaines lettres ensemble. Par exemple, si vous écrivez Aleph, qui est la première U6, U7, il y a une possibilité que d'autres qui écrivent Aleph avec l'accent dessus, Aleph avec l'accent en dessous, cela dépend du contexte. Et ceci est donc similaire pour Ha et pour le Ta Marbuta, c'est donc le T à la fin du mot. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait quelque chose de très bien, à mon avis. Nous sommes très fiers nous avons reçu beaucoup de reconnaissance de la communauté et qui nous a encouragés à continuer dans ce sens. Je vous donne un exemple, je suis désolée, mais c'est en arabe. Dans un nouveau registre qui s'appelle Hayat Abu Dhabi Lissiaha, vous avez toutes les variantes de ce nom de domaine. Ces variantes sont en fait bloquées par défaut. Donc elles sont provisoires au DNS, sauf et l'utilisateur final doit les activer, soit par le biais du registre, de bureau d'enregistrement, soit par l'activation manuelle, par le biais du système de portail fourni par le bureau d'enregistrement. Dans ce cas, l'utilisateur final a décidé d'utiliser trois des nombreuses variantes que lui ou elle pense que les utilisateurs finaux vont saisir. Pourquoi nous ne voulons pas que tous soient activés par défaut? D'abord, pour une question de ressources. Toutes peuvent ne pas être nécessaires. Et puis, il faudrait un effort extra, supplémentaire, par le bureau d'enregistrement, pour l'autre link, pour l'autre chaîne, pour le DNS faisant autorité, etc. Lorsque nous passons à notre première expérience de procédure à l'accès accéléré, nous avons passé par trois phases, la préparation de la chaîne, l'évaluation de la chaîne et la délégation de la chaîne. Avec la frise chronologique, nous avons passé par ces phases depuis le 16 novembre 2009, quand l'ICANN a réellement ouvert la porte au CCTLD et à la candidature. Et le 21 janvier 2010, nous avons eu notre évaluation, le résultat de l'évaluation de notre chaîne. Et le 22 avril 2010, nous avons obtenu la délégation. Et le 5 mai, notre TLD est entré dans la racine. Nous avons fait notre lancement officiel le 22 mai 2010. C'est le premier nom de domaine, khalife.imarat. Et bien que le nom de domaine était là depuis avant que l'IANA ne mette notre TLD dans la zone racine, mais ceci a été officiellement annoncé à la date du 22 mai. Concernant les phases de lancement, nous avons commencé la phase 1 pour les le gouvernement le 30 mai 2010 et les autres phases vont suivre. La période Sunrise commencera le 27 septembre, le Landrash le 15 novembre et l'enregistrement ouvert le 11 décembre 2010. Je voudrais également souligner notre expérience, mettre l'accent sur notre expérience concernant lancement. Nous pensons que pour lancer tout système IDN ou tout niveau, domaine de premier niveau, il y a quatre piliers de réussite. D'abord, d'avoir une politique très claire concernant les variantes, une politique transparente, faire beaucoup de commercialisation, de marketing, parce qu'il s'agit d'un nouveau concept. Les personnes doivent connaître toutes les informations qui y sont liées. Vous devez faire beaucoup de faire savoir auprès de la communauté de sensibilisation, de leur expliquer comment les IDN fonctionnent. Et concernant l'opération, vous devez avoir un service de clientèle qui parle en arabe pour le soutien, bien sûr, surtout concernant le bureau d'enregistrement et bien sûr la technologie. Maintenant, nous avons atteint un certain niveau et nous sommes fiers de dire que notre TLD fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe avec les technologies? Est-ce qu'elles soutiennent le nom domaine comme les utilisateurs le veulent? Certains diraient oui. La question à poser serait, est-ce que les noms de domaine non ASCII seront aussi amicaux que les ASCII? Je ne pense pas, parce que nous avons reçu beaucoup de commentaires des utilisateurs finaux se plaignant que les navigateurs et d'autres applications ne soutiennent pas encore les noms de domaine en arabe de manière appropriée. Donc je voudrais, à la fin de cette diapo, vous transmettre un certain message à nos amis développeurs donc de candidatures, d'applications, pardon. Il y a beaucoup de choses à faire pour renforcer et conforter l'expérience de l'utilisateur. À savoir dans les navigateurs, dans les échanges, dans les logiciels des utilisateurs finaux ou du côté du serveur. Mon message de la part de ma communauté, c'est de garder les IDN aussi simples et amicaux et utilisables par les utilisateurs que le domaine ASCII. C'est une situation un à un. Les utilisateurs veulent avoir des attributs dans leur logiciel. Il faut travailler très fort, énormément. Il faut qu'il y ait une collaboration avec les développeurs pour pouvoir avoir une vraie amélioration en ce qui concerne les IDN dans les domaines non ASCII. Si vous avez des questions, on peut les garder pour la fin, après la présentation des autres intervenants. Merci, Mohamed.
Nous
avons des questions après la présentation de tout le monde.
Donc, les Émirats ont été les premiers à mettre en œuvre la version révisée du protocole IDN. Donc, vraiment, félicitations. Bon travail. L'orateur suivant est le docteur Al-Soman, qui nous vient d'Arabie Saoudite, également l'un des premiers pays à avoir mis en œuvre l'ICTLD. Évidemment, l'Arabie Saoudite est à la tête du monde arabe dans ce domaine et nous avons mené de nombreuses expériences dans ce pays. Alors, docteur.
Hi everyone. Thank you.
Bonjour à tous. Merci Tina et merci à Mohamed lui-même qui a vraiment facilité ma présentation parce qu'il a trouvé de nombreuses similitudes avec la mienne et comme pays arabe, nous travaillons ensemble pour une collaboration entre nos régions. Alors, dans ma présentation, je l'ai divisée en deux sections. Premièrement, ce que nous avons dans nos régions arabes pour que la langue arabe soit disponible dans les noms de domaine. Donc, premièrement, je parlerai de ce que nous avons fait verticalement en CCTLD. Ensuite, les préparations techniques et logistiques de notre côté pour faire fonctionner cette IDN. Et enfin, les prochaines étapes. Nous intégrons l'IDN dans les new TLDs. On verra ce qui viendra après. Donc, comme vous le savez, Saoudinique est une organisation non lucrative qui s'occupe du point depuis SA depuis 1995. Et avant le lancement de l'accélération de CCTLD, en 2003, nous avons mené une étude dans les communautés pour déterminer qui était prêt. Et nous avons montré que nous étions prêts depuis le premier jour. Ceci parce que depuis 2001, nous avons mené avec les pays voisins une collaboration pour résoudre de nombreux problèmes, en particulier dans les domaines linguistiques, c'est-à-dire que nous consacrons beaucoup de temps à résoudre les problèmes linguistiques en ce qui concerne les noms de domaine, et nous consacrons beaucoup de temps à nos technicabilités locales. Par exemple, nous avons une grande expérience en termes de noms de domaines internationaux dans la langue arabe. Nous avons testé des projets dans de nombreux pays arabes dans lesquels nous testons les concepts, nous définissons des outils afin de permettre la vérification. Et donc, nous avons une véritable expérience technique dans ce domaine. Également, nous le partageons avec les communautés. La plupart d'entre eux sont des sources ouvertes, des sources accessibles sur l'Internet. En ce qui concerne la fourniture de services à la communauté, nous nous basons sur le protocole qui nous donne la liste de caractères permis. Donc nous devons construire une approche différente afin d'apporter une solution acceptable par l'utilisateur, facile à l'utilisateur et qui réponde à leurs besoins. Donc nous avons divisé la solution en trois étapes. Premièrement, nous devons définir une table des langues. Il faut que ce soit très clair pour l'utilisateur, les listes de caractères qui peuvent être acceptées dans l'enregistre. Deuxième chose, essayer de clarifier les processus et éviter le hameçonnage. Comme Mohamed l'a expliqué, essayer d'éviter des similitudes, c'est-à-dire empêcher le hameçonnage. Et enfin, si l'on souhaite atteindre une grande communauté arabophone, nous devons élaborer une solution pour les variantes et la façon de les gérer. Donc nous avons passé énormément de temps dans nos communautés afin d'élaborer un tableau des langues. Nous l'avons publié sur le point 5.5.6.4 afin de gérer les problèmes linguistiques. Et grâce à ce tableau, de nombreux problèmes ont été résolus. Par exemple, nous avons des problèmes avec les caractères arabes. Tous ces problèmes peuvent être résolus dans la table des langues. Deuxièmement, ce que nous avons fait dans la langue pour protéger les noms de domaine, eh bien, nous avons créé une sorte de couche intermédiaire qui vérifie automatiquement lorsqu'un nom de domaine est enregistré ou pose une candidature afin de vérifier que les autres qu'ils n'empiètent pas sur un autre domaine de nom. Donc encore une fois, lutter contre le hameçonnage. Et troisième étape est de mettre sur point un algorithme que l'on appelle master key, c'est-à-dire une solution au problème de variantes. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de caractères dans l'alphabet arabe qui se ressemblent très fort et donc semblent être les mêmes, mais ils ont différents codes. Et grâce à cet algorithme des variantes, on utilise différents claviers. Donc les gens ne seront même pas en mesure de taper de nouveaux noms de domaine s'ils ont différents claviers. Donc pour permettre ceci, nous avons dû créer cet algorithme master key qui permet à l'utilisateur qui demande un nom de domaine d'avoir une clé pour ce domaine et toutes ses variantes. En ce qui concerne l'évaluation et la délégation, eh bien, ce sont les mêmes étapes que Mohamed a déjà expliquées. Par exemple, dès le lancement du processus accéléré, nous sommes approuvés. Ensuite, nous faisons une candidature à la délégation et un commentaire que j'aimerais faire ici, ce serait de partager notre expérience quant à ce processus. Nous trouvons que ce processus d'évaluation de la chaîne est excellent, mais nous sommes un peu surpris du travail de l'évaluation de la chaîne. Le travail n'était pas forcément adéquat. Nous avons trouvé qu'il était peu aisé de définir à quelle étape on se trouvait. Il fallait souvent poser la question. Et parfois, nous n'obtenions pas la bonne réponse. Il semblait que c'était des emails automatiques, etc. Donc, bizarrement, la délégation a été réalisée sans nous avertir. C'est-à-dire qu'au bout d'un jour, nous avons appris que le nom de domaine avait été ajouté au serveur hier et ça a été quelque peu surprenant pour nous. Pour être prêt pour l'IDN, nous devons mettre en œuvre toute une série de politiques. Merci. Nous avons par exemple un BDB4 qui produit toutes les politiques pour notre registre et un certain nombre de réglementations, par exemple la principale pour l'enregistrement des noms de domaine, pour l'ouverture des services, Sunrise, etc. Nous avons une série de règles qui doivent nous permettre d'être distribués entre les parties. Donc nous pouvons objecter à des noms de domaine et ceci peut être résolu. Nous pouvons essayer d'exprimer les réserves que nous avons. Il y a une longue liste d'entre eux. Nous établissons également des conseils, des lignes directrices. Par exemple, les gens qui souhaitent utiliser l'arabe dans des noms de domaine. Par exemple, quand il faut des espaces entre les différents mots, nous devons expliquer aux gens que ce n'est pas possible avec les noms de domaine. Donc, il faut trouver une solution qui soit acceptée dans les noms de domaine. Et nous avons publié ceci sur notre site Internet. Ensuite, nous devons avoir les capacités techniques de le faire. Par exemple, en élargissant la largeur de la bande. La capacité de l'enregistrement et nous avons dû reconstruire le système d'enregistrement pour qu'il puisse accueillir la langue arabe, etc. Nous avons également annoncé notre plan d'ouverture pour le 15 avril 2010. Donc il est divisé en deux phases. La première, c'est la phase Sunrise. De la part des propriétaires de la marque déposée. Donc, ça commence le 15 avril et ça se termine le 15 juillet. Et ensuite, nous avons la phase Land Rush, c'est-à-dire qu'à cette période, tout le monde peut faire sa demande pour les noms de domaines arabes, etc. Alors, quelles sont les étapes suivantes ? Ça ne se voit pas très bien à l'écran, mais ce dont nous avons besoin. Nous avons, comme nous l'avons dit, le TLD en Arabie Saoudite, mais les gens ne seront pas capables de les taper s'il y a, n'a pas de différents claviers. Pour l'instant, c'est uniquement possible si on a des claviers arabiques, mais si on a des claviers, par exemple, en farsi, eh bien, ça va être difficile de taper, voire impossible de taper ces noms de domaine. Sauf si ICANN ou YANA nous fournit une variante au niveau du TLD. Donc pour l'instant, nous souhaiterions fournir à nos clients tous les types de variantes nécessaires afin de résoudre tous leurs problèmes et leur donner toute la série des caractères. Voilà, c'est l'une des demandes que nous avons. Deuxième chose, comme Mohamed l'a dit, au niveau de la candidature, les IDN seraient soutenus par les utilisateurs si l'expérience devient agréable, facile. Car pour l'instant, des applications ne soutiennent pas les IDN. Par exemple, il n'y a pas d'email, il n'y a pas d'outil de chat, de moteur de recherche, etc. Donc l'IDN n'est pas une application qui soutient de nombreux services. Et donc, c'est difficile avec la langue arabe, en particulier dans la mesure où c'est une langue qui se lit de droite à gauche. Donc, tout est inversé et lorsque vous affichez l'URL, tout est confus. Donc, l'utilisateur, bien sûr, ne peut pas s'en sortir. Parfois, nous utilisons des noms de domaine en arabe et ensuite, le moteur de recherche va vous montrer le format xx.point et vous ne comprenez pas. Ceci devrait vraiment disparaître du côté de l'utilisateur. Également, si l'on tape des noms de sous-domaines, par exemple, on a trois différents niveaux en arabe, eh bien, ils vont se mélanger parce qu'il ne sera pas en mesure de reconnaître le mot. Ceci pose un problème au niveau des développeurs de logiciels. Donc, lors de la phase Sunrise, nous avons essayé d'expliquer aux gens qui ont rempli cette fiche de candidature nous avons compris de ces gens qu'ils avaient des problèmes d'espace. Donc, d'espace entre les mots. Les gens ajoutaient toujours des espaces entre les différents mots. Et donc, dans notre tableau des langues, nous expliquons que les espaces ne sont pas possibles. Il faut utiliser d'autres types de caractères de séparation. Donc, nous avons dû passer énormément de temps et nos techniciens ont dû vraiment éduquer les gens à écrire ces noms de domaine de façon à ce qu'ils soient acceptables. Donc, nous avons dû changer les noms, remplacer les points. Merci.
Merci, Dr. Alersman. Et le dernier intervenant de l'expérience de procédure accélérée, André Koloskonokov de Russie. En Russie, c'est un des premiers, donc CCTLD IDN, qui avait des caractères cyrilliques. Merci. Commençons. D'abord, tous nos IDN fonctionnent déjà depuis 22 avril avec nos autres les pays collègues. Il y a eu la délégation le 12 mai. Les premiers deux sites ont été lancés, Président RF et Pravich RF. Et nous avons également des centres techniques qui ont suivi directement les sites directeurs. Nous utilisons notre travail du point de vue marketing et le 25 mai, nous avons eu la production du fichier zone. La première heure, nous avons eu 247 domaines délégués et 576 le premier jour. Ce qui n'est pas mauvais, ça veut dire qu'il y a une demande. Montrer un peu les chiffres. À ce jour, nous avons plus de 14 000 domaines enregistrés, en majeure partie des marques commerciales. Pour les besoins du gouvernement, nous avons une liste étatique qui s'appelle les noms de la fédération. Donc, le président, le Kremlin, les institutions, la Russie, tous ces mots fédéraux que nous avons mis dans une liste de réserve pour la liste gouvernementale et les noms du ministère de la Culture, le nom de tous les ministères. C'était très direct, très clair. Et maintenant, nous avons environ de 22 domaines délégués du total des domaines enregistrés. Ce qui n'est pas mauvais si nous considérons que personne ne savait si ceci allait être populaire ou pas et que le débat est toujours en cours concernant l'utilité ou non. Les leçons que nous avons apprises. Nous prenions le risque de lancer le Sunrise avant l'approbation de la chaîne. Nous l'avons lancé la période Sunrise le 25 novembre l'année dernière. Mais nous étions convaincus que la chaîne pour laquelle nous avions posé notre candidature était OK du point de vue sécurité et stabilité parce que nous avions ce caractère cyrillique spécial dans la chaîne. Et par ailleurs, nous n'avions pas de concurrents. Il n'y avait pas de candidats à part la Russie qui se sont donc avancés et ont dit que nous voulons cette idée et nous voulons être les administrateurs de ce TLD. Donc nous étions convaincus que notre candidature allait être acceptée. Il est très important d'avoir un soutien gouvernemental approprié et je dois dire que le gouvernement, le ministère des Télécommunications, nous a soutenus depuis le début. D'abord, nous avons parlé aux gens de ICANN à Mexico, lors de la conférence de Mexico. Et même en ce temps-là, nous savions déjà que ça allait venir, que rien n'allait arrêter la procédure accélérée, que rien n'allait l'interrompre et rien n'allait empêcher qu'elle ne soit complétée en un temps raisonnable. Et à mon avis, il s'agissait donc d'une période de temps raisonnable pour un projet de cette envergure. Nous avons eu bien sûr beaucoup de problématiques, mais il y en a une qui était intéressante. Ça, c'est une idée. Nous avons pensé que c'était un nom cyrillique et nous devions donner les priorités aux marques de commerce écrites en cyrillique. Mais selon la législation russe, et pas seulement, toutes les marques de commerce devaient avoir un traitement équitable. Donc, il fallait lancer la deuxième phase de l'enregistrement prioritaire de Sunrise et les images graphiques et les scripts combinés, etc. Bien sûr, nous étions trop rapides. Il y avait un problème. Nous n'avons pas fait attention que le squattage des schémas est un grand problème. Qu'il y avait donc un squattage de marques de commerce beaucoup plus important dans les entreprises qu'un squattage de noms de domaine. Est-ce que ceci était spécifique à la Russie? Et nous avons pensé, donc finalement chez nous, lorsque nous avons commencé, les premiers domaines comme sexe.rf, hosting.rf et des marques de commerce qui étaient des mots simples. Je devrais dire qu'aujourd'hui, il s'agit 9% du total de noms de domaine représentent des marques de commerce, des marques commerciales, 9% des mots simples. Et je pense que cela va être réduit à 4% à la fin de la période Sunrise. Dans ce diagramme, vous voyez les phases. Nous avons commencé le Landrash le 1er octobre et vous pouvez voir les deux phases. D'abord pour les marques de commerce en cyrillique et la deuxième phase pour les noms combinés et en caractère non cyrillique. Nous avons voulu également donner une priorité aux entreprises des médias, aux entreprises non commerciales et à certains non géographiques. Nous avons déjà mentionné que nous vivons dans le monde non IDN. Tout est basé dans l'Internet sur ASCII. C'est comme ça. Et nous avons eu de très bonnes réunions à la fin de la semaine dernière avec mes collègues pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer ce monde et le tourner en IDN, du moins de ce côté de la planète. Nous avons trouvé des choses très intéressantes. Nous savions que nous utilisions tous l'Internet, mais nous avons commencé à poser des questions. Par exemple, XN- est très gênant, ça s'apprête à confusion. Les gens ne peuvent pas comprendre, on ne peut pas se souvenir de XN-. Et il ne faut pas nous blâmer pour ça, nous reprocher le fait que nous ne souvenons pas. Mais il y a des choses comme, il y a une redirection vers .com, vous écrivez un HTTP et vous avez une redirection vers .com. C'est peut-être bien, mais pour beaucoup de mots, nous savons tous que les navigateurs, c'est aussi un secteur de l'industrie, mais quelquefois, il est difficile de savoir quel genre de résilience vous allez obtenir. Il faudrait mettre des normes, en fait, pour ceci.
do the land rush.
Et comme je l'ai dit, nous nous chargerons du land rush, mais avec certaines conditions préalables. Nous pensons que, premièrement, comme nous ne sommes pas une entreprise commerciale ni gouvernementale, nous devons essayer de planifier la façon dont nous allons dépenser l'argent alloué par land rush. Il n'y a pas d'objectif pour en gagner davantage. Et donc, nous consacrerons pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi nous dépensons cet argent. Je pense que ça doit se consacrer aux enfants, à l'éducation. Donc, dépenser l'argent de façon appropriée, sagement. Voilà, je vous remercie. Merci, André. Alors, c'est tout pour les expériences CCTLD et ce qui a été l'expérience de nos différents panélistes. Donc, donnons à présent le micro aux questions, qu'elles se tournent sur les questions de CCTLD ou le processus accéléré. Mais avant de prendre les questions de la salle, avons-nous des questions des participants à distance? Non? Mais est-ce qu'on peut avoir les scores là, pour la Coupe du Monde d'abord? Angleterre, 1-0 pour les, donc 0 pour les États-Unis. Et Algérie, 0-0. Premièrement, félicitations sur les premiers travaux sur les noms internationaux de domaine. Je suis très intéressée par le travail mené en Russie parce que moi je parle au nom de la Bulgarie, mon pays, et il y a un problème avec les noms de domaines internationaux bulgares qui en fait ressemblent très fort à celui du Brésil. Et donc, lorsque nous avons investigué, eh bien, nous avons trouvé un élément dans les techniques d'évaluation parce que, non, je n'ai rien trouvé en fait, parce qu'on ne se porte que sur ce qui se passe après le point. Mais par exemple, lorsque l'on passe de point BG, il ne s'agit pas du Brésil ou d'un pays latin. Donc j'aimerais poser cette question pour la révision de novembre. Voilà, c'est simplement un retour de ma part et j'écrirai de toute façon une lettre officielle sur le sujet et j'attendrai vos réactions avec impatience parce que vraiment nous avons besoin que le nom de domaine soit assigné à la Bulgarie et pas autre chose qui ne veut rien dire pour les Bulgares. Eh bien, merci beaucoup. Un bref retour. Évidemment, je comprends que ceci est important pour la Bulgarie, comme ça l'est pour de nombreux autres pays qui pourraient se trouver dans la même situation. Effectivement, lors des étapes initiales, nous faisons très attention aux noms très similaires parce que on peut, par exemple, avoir des noms d'adresses qui sont clairement cyrilliques, mais le problème est encore plus important entre les différentes langues latines elles-mêmes, parce que si le nom de domaine de premier niveau a l'air latin et aussi le nom de domaine a l'air d'être latin, évidemment, ça crée des problèmes. Donc, nous essayons d'être très minutieux lors de l'étude de ces problèmes. Et bien sûr, la révision du processus a pour but de réaliser les ajustements nécessaires. Donc bien sûr, nous sommes très heureux d'avoir pu bénéficier de ce commentaire. James. Bonjour, je suis James. J'adresse ma question au docteur Azuma. Premièrement, j'aimerais vous féliciter, vous et votre équipe, sur le travail sur R64 et 65, ce sont d'excellents documents et j'aimerais vous remercier pour votre contribution à ce travail. J'ai une question. J'ai pu voir que vous aviez évité bon nombre des problèmes autour de R64 et 65 en interdisant certains caractères dans l'enregistrement, mais pardon, je vous ne n'avez pas de recoupement entre les lettres arabiques. Non, ce ne sont pas des recoupements, ce sont des similitudes. Donc il y a des domaines, des noms de domaines qui sont différents, qui ont des variantes. Donc comment gérez-vous ces variantes? Est-ce que vous considérez ceci, vous les facturez plusieurs fois ou vous les facturez une fois pour toutes? Comment gérez-vous ceci du côté des politiques? Eh bien, c'est ce que nous appelons la deuxième étape, que vous verrez d'ailleurs dans les présentations. Et il s'agit de sauvegarder les bureaux d'enregistrement de tout problème de hameçonnage avec les similitudes existant dans une langue. Et donc, lorsque nous l'attribuons à l'utilisateur, nous la lui offrons gratuitement. Tout le processus d'enregistrement est gratuit, du moins jusqu'à présent. Et donc, le plaçage par lot de tous ces éléments est également gratuit. Donc, il y a des mécanismes de regroupement qui conviennent au bureau d'enregistrement. Nous ne voulons pas punir les gens qui demandent des idées. Nous n'allons pas leur facturer davantage. Ceci serait une pénalité. Donc, en d'autres mots, vous allez créer un regroupement par lot de noms de domaine. Oui, voilà. Bonjour, Surat Batani de .jo. Premièrement, j'aimerais féliciter les quatre pays qui ont été délégués au panel. Et j'ai une question comme une remarque. Premièrement, j'aimerais ajouter ma voix à ce que le docteur Azaman a déclaré. Aïkan et Yana devraient travailler en plus étroite collaboration parce que pour l'instant, le processus est un peu dur et donc Yana devrait être un peu plus souple dans sa façon de travailler sur les délégations. La deuxième chose concerne l'équipe du processus accéléré d'Aïkan. Il n'y a aucune guidance claire sur la façon dont les pays peuvent demander d'éliminer ce tarif d'évaluation des chaînes. Alors, pour les tarifs, nous enverrons une facture. Et si à l'avance vous avez déclaré dans votre demande que vous n'étiez pas en mesure de payer cette facture et que vous vouliez bénéficier d'une abstention de paiement, eh bien, nous traiterons votre cas. Mais en principe, vous recevrez cette facture de la part d'ICANN. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas en mesure de la payer, ou du moins pas en totalité, quelle que soit votre situation, eh bien, il n'y aura qu'à en discuter entre vous et le personnel d'ICANN. Comme nous l'avons déjà dit, le processus accéléré est censé s'autogérer. Donc, dès que nous avons des coûts, nous demandons aux demandeurs de les payer. C'est la même chose avec les programmes GTLD. Par conséquent, nous espérons que ceux qui sont capables de payer, ils pourront le faire. Et si vous n'êtes capable que de ne payer qu'une partie du tarif, eh bien, nous apprécierons déjà. Sinon, ce sera difficile de poursuivre ce processus. Je pense que c'est assez simple. Si quelqu'un a des questions spécifiques sur le sujet, je vais les prendre en privé parce que je ne pense pas qu'il soit très approprié d'en discuter de façon publique. En ce qui concerne la coordination entre Yana et ICANN, eh bien, nous avons déjà mené plusieurs expériences au cours de ces premiers tours, également des ajustements. C'est-à-dire que ICANN et Yana prendront une autre orientation en termes de communication. Nous ne changeons pas le processus IANA, il reste comme il est parce qu'il fonctionne, nous ne le changerons pas. Mais ICANN va fournir davantage d'efforts en termes de communication. Donc nous nous en chargerons, Patrick Jones et moi-même, et nous savons que des changements auront lieu. Eric Connolly. Donc, le groupe qui vient de se réunir parlait de baisser les barrières. Et l'une des barrières était les coûts, basés sur le principe de la récupération des coûts. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais que vous expliquiez de façon plus simple ce que vous venez d'expliquer afin que je puisse ramener cette explication là où je travaille, dans un langage plus simple. Oui, bien sûr. Vous me demandez si vous pouvez répéter ce que j'ai dit, bien sûr. Mais j'aimerais bien avoir quelques détails. Les détails? Pas immédiatement, bien sûr, mais nous pouvons en parler plus tard. J'ai une autre question, cependant. Lorsque nous avons parlé des questions des Bulgares, je me demandais si les deux personnes qui se sont chargées de la mise en œuvre dans les pays de langue arabe et de l'allocation dans l'espace des registres quel était l'intérêt du mécanisme qu'ils ont présenté pour gérer toute la variété de caractères.
Je vais reposer la question. Nous collaborons ensemble pour avoir des solutions similaires. Nous comprenons que l'utilisateur doit choisir la langue d'entrée d'abord. Par exemple, dans le nom de domaine, il faudra utiliser l'arabe, le perse, etc. Sur cette base, il recevra une table de langues permises. Nous ne l'avons pas maintenant. Nous pouvons afficher un clavier virtuel si leur clavier ne soutient pas le mécanisme d'entrée. Est-ce que ceci répond à votre question? Oui, en majorité. Donc, c'est une mesure de clavier et il n'est pas nécessaire de regrouper s'il y a un mécanisme alternatif. Avec le bundling, lorsque des caractères similaires, par exemple, vous saisissez un des caractères, les autres variantes de ce caractère seront prises en charge par l'algorithme clé. Merci infiniment. Une question pure, par curiosité pure. Dans une situation comme celle-ci, ou qui comprendra beaucoup de langues, que l'objectif du nom de domaine localisé, vous mettez par exemple un label arabe sur un document arabe, et je présume, sauf si vous êtes un lecteur arabe, vous allez faire une erreur peut-être en saisissant l'adresse. Je suis intéressé par les représentations du clavier. Si ceci s'ajuste uniquement au parlant de l'arabe dans d'autres environnements de travail, est-ce qu'il y a une communication à travers les frontières? Le script arabe, la langue arabe sont très utilisés dans le monde islamique, où ils ne sont pas arabes, mais ils utilisent la langue arabe pour avoir accès à certaines informations qui ont rapport avec l'islam. Par exemple, ils ont un clavier, comme tous les claviers, le clavier farsi, par exemple, le clavier perse. S'ils veulent, s'ils ont des informations en arabe que les Arabes comprennent. Ils ne pourront pas le faire. Oui, alors, comme vous voyez, nous sommes en train de passer dans les variantes, dans le sujet des variantes. Et il s'agit d'un des sujets les plus importants, les sujets principaux. Nous avons environ une demi-heure. Et je vais demander aux deux intervenants de Sivonic et de WNIC de nous joindre au panel dans cette partie de la séance. Il s'agit donc de variantes au premier niveau. Et nous avons toutes ces mises en œuvre de variantes au deuxième niveau. Mais quand nous parlons du premier niveau, comment faire ceci? Les IDN en tant que variantes à ce niveau ne sont pas soutenues maintenant et ne seront pas attribuées, déléguées, parce que nous ne savons pas comment le faire encore. Il est très important pour que les IDN soient utiles, spécialement dans certaines régions. Selon le clavier que vous avez, vous ne savez pas quel caractère vous êtes en train de saisir. Et si vous avez un clavier qui n'est pas adapté, ce n'est pas dans la racine, vous aurez un problème. Et ceci empêcherait donc ou gênerait l'utilisabilité des IDN dans ces régions. Mais il est également important de ne pas prêter à confusion et que les utilisateurs ne soient pas confondus. Dans la communauté, nous avons eu beaucoup de débats au sein de la communauté technique et de la communauté stratégique. Nous n'avons pas été très bons dans la définition du problème, malheureusement. Du moins, du côté de l'ICANN, nous n'avons pas encore réussi à le faire. Et c'est ainsi que les choses vont et viennent entre le côté stratégique, le côté technique. Et nous avons dit, nous allons essayer d'avoir une séance avec des discussions et voir si nous devons recommencer à zéro et construire, refaire des définitions, des catégories et nous imaginer quel type d'utilisabilité ou de fonctionnalité nous conviendrait. Nous avons déjà vu des exemples, mais je vais les mettre à l'écran et ceci va nous permettre de voir la différence entre les différents types de variantes. Au début, vous pouvez voir la différence. Même si vous êtes un utilisateur chinois, vous savez qu'ils sont saisis de manière différente. Il s'agit de variantes. Ils veulent la même chose. Ils peuvent utiliser de manière interchangeable. Il s'agit d'une proposition, n'est-ce pas? Pour essayer de faire une distinction, la deuxième a exactement la même apparence. Et ceci vous montre deux exemples différents. Un où les variantes sont différentes, un où les variantes sont les mêmes, et vous avez différentes catégories. Et le dernier exemple, on les voit, c'est les mêmes, mais il s'agit de langues différentes. Ce sont des façons d'examiner les divers types de variantes. Je ne dis pas qu'il s'agit de la bonne manière, mais j'essaye d'avoir un dialogue sur la manière de les classifier et de les définir. Et pendant la procédure accélérée, la discussion du programme, il y a eu beaucoup de questions concernant le sens d'une variante. Même si les variantes veulent dire la même chose, les traductions ou des mots qui veulent dire la même chose, ce ne sont pas des variantes. Ça prête un peu à confusion, mais ceci a été décidé il y a longtemps que les traductions simples de labels ou de mots ou de chaînes ne sont pas considérées comme des variantes. Elles ne sont pas nécessairement déléguées à la même entité uniquement parce qu'il s'agit de traduction. Pour savoir combien elles peuvent être différentes, et trouver une solution qui peut s'appliquer à toutes. Après cette introduction, je vais demander à nos deux derniers intervenants de prendre la parole. Dans CW Unique, ils ont beaucoup d'expérience, ils travaillent depuis longtemps sur les variantes. Et c'est pour ça que nous leur avons demandé de venir et de parler de ceci. Merci Tina pour ce travail excellent. Tina veut que j'explique, que je vous raconte l'histoire des variantes par rapport au script chinois. Je pense que les variantes sont différentes que pour les autres langues. J'ai eu des discussions avec beaucoup d'experts et j'aurais dû laisser ceci aux experts du langage. Pour les Chinois, pour décrire ceci comme des écritures différentes. Souvent, nous avons discuté les variantes en chinois et nous mentionnons les similarités entre le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Le chinois simplifié et le chinois traditionnel sont identiques. Mais par exemple, l'ican en majuscule devient ican en minuscule. C'est ça la différence entre le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Les problèmes les plus importants de variantes, les problèmes de variantes sont différents. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, le premier caractère, c'est un caractère qui veut dire pays. Et vous voyez que vous avez trois utilisations. La première utilisation est en chinois simplifié, la deuxième en chinois traditionnel et la troisième, une variante. Il n'y a pas donc pour la première catégorie.
We use scripts for Chinese writing. Nous utilisons des caractères et nous supposons que en anglais c'est la même chose. Et donc, il y a une différence entre les concepts d'écriture chinois et les autres. La majorité des caractères anglais ne veulent rien dire. Ils doivent se combiner pour créer un sens. Par contre, les caractères chinois eux-mêmes signifient quelque chose. Il s'agit d'une unité de sens. Et c'est ce qui crée le problème. Nous voyons donc qu'il y a des caractères qui se ressemblent, qui sont pratiquement similaires et qui, en fonction de leur façon de se combiner, peuvent signifier des choses tout à fait différentes. Par exemple, banque ou oiseau, pour nous, c'est pratiquement le même mot, donc c'est un problème. Par conséquent, ce que j'essaie d'expliquer, c'est la façon dont les variantes affectent les domaines chinois. C'est quelque peu compliqué de tout vous expliquer, toute l'histoire du système des noms de domaine chinois, mais par exemple ici nous avons un caractère qui signifie banque. Le premier des caractères signifie donc une banque. Banque de Chine. « Et le problème est que s'il y a deux caractères qui signifient la même chose, mais qui appartiennent à des registres ou à des bureaux d'enregistrement différents, eh bien ceci va diriger l'usager vers des sites web différents, ce qui bien sûr peut provoquer des expériences très négatives pour l'usager et des problèmes très graves de phishing ou de hameçonnage. Et donc nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ceci peut également causer de nombreux problèmes de hameçonnage. Je ne sais pas s'il y a eu un groupe de travail sur le hameçonnage, mais je pense que le guide sur le hameçonnage donnera les réponses clés.
On m'a demandé qu'est-ce que c'était le nom de domaine en chinois. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Non, si on me demande que les IDN en caractère chinois, en Chine, les noms de domaine en chinois comprennent quelques caractères et il y a donc une certaine utilisation mixte. Il y a plus de 100 000 caractères chinois en Chine et nous utilisons moins de 20 000 dans le système de noms de domaine. Ceci ne veut pas dire que tous les caractères de chinois vont être utilisés par les bureaux d'enregistrement. Mais les Chinois ne doivent pas s'inquiéter. Les Chinois pensent, le plus grand nombre de Chinois connaissent 6 000 caractères toute leur vie. La norme que nous avons établie suit plusieurs RFC, par exemple comme l'RFC 3454. Et bien sûr, l'équipe d'ingénierie du RFC 3743 a établi des directives pour l'enregistrement et l'administration des noms de domaine internationalisés concernant le chinois, le japonais et le coréen. Et l'autre, le RFC 4713, comprend des recommandations d'enregistrement et d'administration pour les noms de domaine chinois. Si vous êtes intéressé par ces deux RFC, vous pouvez voir quelle est la fonction clé. Je vous dis très rapidement que la fonction clé du RFC 4713, c'est que quand le titulaire de nom de domaine enregistre un nom de domaine chinois, il soumet le nom de domaine qu'il veut. Le nom de domaine est soumis seulement pour le chinois simplifié. Et le chinois traditionnel sera délégué au titulaire du nom de domaine. Ceci va comprendre 4-5 caractères et le nombre de combinaisons va être très très important. Et comment donc gérer tout ceci? C'est un vrai problème pour nous. Ceci, les autres variantes vont être réservées dans la base de données pour le titulaire de nom de domaine. Donc seront réservées pour lui. Et seul lui aura la possibilité et la chance de les activer. Tous ces noms de domaine seront traités et abordés comme un paquet. Un paquet qui appartient uniquement au titulaire du nom de domaine. Le paquet veut dire que si vous ajoutez un nom, toutes les autres variantes vont y être ajoutées. Si vous voulez supprimer un nom de domaine, toutes les variantes de ce nom de domaine vont également être supprimées. Donc il y a tout le tout est conçu et perçu comme étant un paquet. Je vais vous donner un exemple de ceci. Ici, nous avons un label qui de l'université de Tsinghua, la plus connue en Chine. Il y a 4 caractères chinois dans ce nom de domaine, mais 3 des 4 caractères ont des problèmes de variantes. Le premier, le deuxième et le quatrième. Chacun a 3 variantes. Ceci veut dire que le nombre de combinaisons est 27. Ce qui veut dire que le paquet idéal doit comprendre au moins 27 variantes. Le niveau de domaine internationalisé, il y aura peut-être l'entrée en chinois simplifié seulement et le nom de domaine en chinois traditionnel sera peut-être aussi délégué à lui et les autres 25 variantes internationalisées pourront être réservées à ce titulaire de nom de domaine. Et je crois que ceci est la fonction clé de notre gestion des variantes en chinois. Je pense que la solution actuelle n'est pas parfaite. Il n'est pas facile de gérer le nom de domaine internationalisé et de rendre le fichier de zone plus important. Nous avons discuté ce problème avec l'équipe d'ingénierie IETF depuis de longues années, mais nous n'avons pas de solution parfaite. Mais l'IETF est actuellement en train de voir et d'examiner de nouveau les solutions possibles. Par exemple, la solution de BNM. Nous avons donc présenté un projet à l'IETF, donc une solution B-name au lieu de D-name. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer tout ceci. Nous avons également préparé un autre document préliminaire pour les zones clones. Ceci n'a pas à voir uniquement avec les variantes de chinois, mais ceci peut être utilisé comme une mesure de variantes. Nous avons un clonage de tous les noms, les espaces de noms sous un nom, d'un espace de nom à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? J'espère qu'après toutes les recherches et les études menées par l'IETF, nous arriverons à une solution parfaite. Je vous remercie. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous seront utiles.
Thank you, Sheldon. Merci beaucoup. Nous avons encore environ 15 minutes, donc je vais demander à Naiman Su de TW NIC de venir faire sa présentation sur les expériences en termes de gestion des IDN. Et j'aimerais vous demander de vraiment vous en tenir à 10 minutes et ensuite peut-être 5 minutes de discussion publique. Alors, nous allons parler de l'expérience à Taïwan. Premièrement, pourquoi avons-nous besoin de cette table des variantes et pourquoi avons-nous besoin de la politique d'enregistrement? Premièrement, je parlerai de CDNC. Donc, le consortium des noms de domaines chinois. Donc, CNNC, TWNIC et MONIC ont mis sur pied ce CDNC qui se concentre sur les solutions techniques pour les noms de domaines chinois, y compris IETF, IDNA, les normes de variantes chinoises, etc. En 2001, CDNC a suggéré d'utiliser la table des variantes pour mettre en œuvre la résolution SCTC. En 2002, TWNIC a formé la variante chinoise, le groupe de travail sur la variante chinoise. Et ses membres incluent Academia Sinica. C'est une organisation à Taïwan. Le deuxième est l'Université Centrale Nationale, l'Association Informatique de Taipei, la plus grande organisation informatique de Taïwan, également le directorat général de la transparence et des statistiques. Également la Fondation chinoise pour les technologies numériques. Et également IBM Taïwan. En mai 2005, il y a eu un enregistrement pour la norme nationale. Et en 2002 et 2003, nous avons soumis 7 différentes tables de variantes pour les normes d'enregistrement des noms de domaine. Et en septembre 2003, nous avons examiné la norme. Elle a été approuvée. En janvier 2004, la norme a donc été révisée par le comité technologique des normes nationales et en mai, il a été approuvé. Donc en juillet 2004, nous avons publié la norme nationale CNS 14838 et en mars 2005, nous avons publié la variante yana.tw, donc variante chinoise. Vous voyez à l'écran les différents codes qui, certains, se ressemblent beaucoup. Certains, oui, ressemblent beaucoup aux autres. Alors, la guidance JET. Nous avons parlé de ce tableau de variantes qui inclut un point de code valide, ensuite les variantes favorites et ensuite les variantes de caractère. En ce qui concerne la guidance sur l'administration de l'IDN, la RFC 4713 a émis les normes pour l'enregistrement et l'administration. Ce sont des recommandations pour les noms de domaine chinois. Ceci fournit également une solution pour l'enregistrement des noms de domaine chinois et l'administration qui a été adoptée et déployée afin de simplifier les noms traditionnels chinois, les noms de domaine traditionnels et leurs équivalences. En ce qui concerne la table des variantes IANA, le tableau de langue ZH-TW définit les 19 520 caractères chinois dans le tableau des variantes de caractères traditionnels pour les noms de domaine. Donc la procédure d'enregistrement. Le but est d'inclure des formes de chinois simplifiées et de chinois traditionnels. Et l'activation du nom de domaine requis et de la réserve de l'équivalence devrait être fournie par le registre. Évidemment, il y a deux tableaux, un pour le chinois simplifié et un pour le chinois traditionnel. Et il existe quatre styles de caractère, de variantes de caractère. Donc, selon la table, le tableau des variantes, eh bien, vous pouvez trouver les caractères dans le tableau. Donc, nous avons passé en revue les différentes possibilités d'enregistrement. Et vous pouvez vérifier notre whois, vous pouvez aller le consulter. Il montre clairement le chinois simplifié et le chinois traditionnel avec les tableaux si vous devez effectuer des recherches. Voilà, je vous remercie.
Thank you, Niven. So, as you can see, there is a lot of work going on.
Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de travail qui est effectué dans les différentes régions sur le thème des variantes. Et je pense donc que le défi qui nous est posé est d'essayer d'inclure ceci dans les différents processus afin de parvenir à une solution pour les IDN des noms de domaines de premier niveau pour les variantes. La façon dont ceci fonctionne chez ICANN, eh bien, c'est pareil partout ailleurs. Nous devons soumettre ce sujet à discussion. Plusieurs réunions ont été organisées cette semaine et quelques discussions sur la façon de faire avancer ceci. Et donc, nous allons essayer de définir des propositions que nous pouvons faire. Donc, ce que vous allez proposer, ce sera simplement des propositions. Nous devrons essayer d'écouter sur les différentes questions qui sont posées, différents problèmes, et peut-être essayer de parvenir à un consensus sur les différents types de variantes. Est-ce qu'il devrait avoir différentes règles y associées? Est-ce qu'on doit avoir une unification des systèmes ou plutôt des systèmes individuels? Donc, vous êtes tous intéressés par le sujet des tableaux IDN et tableaux de variantes, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de solution propre. Donc, c'est facile de contourner le système s'il n'existe aucune règle, et c'est le cas pour l'instant. En ce qui concerne les conflits ou les mécanismes d'objection que nous devons résoudre, bien, j'aimerais aussi poser des questions, ceci à deux personnes dans la communauté, pour les variantes. Et pour ce qui est de la définition des variantes, nous avons reçu des questions, par exemple le fait d'accepter les variantes au niveau mondial, et donc nous devons essayer de différencier les systèmes et élaborer différents types de définitions. Donc, on parle beaucoup de la terminologie. Aujourd'hui, on les qualifie de variantes, mais ceci peut être un peu confus parce qu'il existe des tas de différents types de variantes. D'un point de vue plus technique, nous devons poursuivre le dialogue avec la communauté technique parce qu'ils ne savent pas exactement ce que nous essayons de faire. Nous devons donc essayer de spécifier leur expliquer ce que nous cherchons, les fonctionnalités que nous cherchons. Et si la communauté technique nous dit que ce n'est pas possible, eh bien, ils pourront peut-être nous orienter vers de meilleures solutions. Des scénarios de tests qui ont déjà été cités par nos orateurs ont été le D-Name. Le D-Name, nous devrons en discuter davantage, discuter des raisons pour lesquelles nous le testons, sans quoi nous n'obtiendrons pas de bonnes possibilités. En ce qui concerne le B-Name, Il est encore en cours et nous ne sommes pas encore à même de le tester. Il est encore trop tôt. Mais enfin, j'aimerais considérer l'expérience en termes de politique d'enregistrement. Et peut-être que ceci fonctionne avec certaines des variantes et peut-être serait-il positif de vous encourager à poursuivre dans cette voie. Donc voici des questions et des propositions pour la communauté. Je vois que nous avons énormément, ou quelques du moins, personnes dans la file. J'ai encore deux transparents à vous montrer. Patrick. Des participants à distance, non? Alors, qui était le premier? Vous vous disputez? Bon, allez, allez-y. Eric? Merci. Encore une fois, Eric Decor. Depuis 20 ans, nous nous penchons sur les problèmes de caractère. Et en tant qu'exercice de calligraphie, nous sommes parvenus à établir une série d'alphabets. Et donc la question est la suivante. Comment fonctionnent les caractères dans la langue arabe? Parce que j'imagine que si l'on compare l'arabe au chinois, par exemple, la réponse est différente. Nous avons une longitude de séquence qui varie d'une langue à l'autre. Et donc, j'aimerais savoir comment on intègre ceci à la définition des caractères qui sont utilisés au sein des différentes variantes. J'imagine qu'il existe énormément de différences entre l'arabe et le chinois. Et donc, de ce point de vue, j'aimerais qu'on m'explique exactement comment les mots arabes varient, par exemple, s'ils sont plus longs, s'ils portent 5 caractères. Et dans le cas du chinois, comment on gère cette série de problèmes. Je me demande si, au niveau du registre, on adopte des mesures et comment on fait, sachant que parfois on ne peut inclure que 5 caractères.
La longueur des caractères en arabe, il est escompté qu'elle sera plus longue que les ASCII. Les abréviations ne sont pas utilisées en arabe et les gens utilisent des mots en entier. Et quelquefois, pour expliquer ce que vous voulez exactement dire, vous avez peut-être besoin de deux mots. Donc, nous attendons que les noms de domaines en arabe seront un peu plus longs. Ceci répond à la première moitié de ma question. Et donc, mon ignorance était bien fondée. Concernant les idiogrammes, et le script unifié, est-ce qu'il est raisonnable de penser que la majorité des noms seront de 5 ou 6 caractères? Je pose la question à la personne de TWNIC et CNNIC, donc les caractères chinois. Qu'est-ce que vous avez dit de l'unification? Une question d'extensibilité. Qu'est-ce que nous cherchons? Sûrement pas une longueur de label maximum. Combien de caractères dans la majorité des langages pour un opérateur de langage, de zone ce que les gens appelaient, par exemple, l'explosion exponentielle. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça, de la même façon? Eric, permettez-moi d'essayer. de vous aider. Si vous regardez le fichier de zone qui existe maintenant, d'OCN par exemple, vous avez raison dans le sens qu'il y a une portion importante de noms qui ont 5 caractères ou moins. Parce qu'il y a moins d'informations en lettres majuscules. Oui, vous savez ça. Mais ceci étant donné, il y a certains noms officiels d'organisations, comme par exemple une agence gouvernementale, que vous ne vous pouvez pas les empêcher d'avoir plus de 5 mots, de 5 caractères. Je comprends, je suis au courant, je pense que en Chine comme en Allemagne, il y aura des mots qui s'ajouteront l'un à l'autre. Mais est-ce que la majorité des noms auront plus de caractères? Est-ce qu'il y a une différence d'extensibilité, d'échelle? Vous parlez d'une propriété de 2 à 5 ou plutôt 2 à 6. Merci. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour cela dans le .cn. Il n'y a pas donc de limitation pour un enregistrement de 5 caractères. Non, je ne parle pas de l'enregistrement. Je parle de l'opérateur du fichier de zone. Nous préférons que ce ne soit pas long, bien sûr, vous avez raison. 2 à 5, 2 à 6, ce sera la routine. Et il y aura certaines exceptions pour des noms plus longs, par exemple, dans le cas de gouvernement, qui ont des noms plus longs. Mais pour les titulaires non gouvernementaux, vous avez pour objectif des enregistrements d'un nombre plus limité de caractères. N'est-ce pas? Et donc, c'était une comparaison avec les propriétés d'extensibilité qui étaient présentées par les variantes dans le script arabe. Du moins, du point de vue routine, ces deux variantes, en chinois simplifié, chinois traditionnel, sont très distinctes. Merci Eric, c'est une façon différente de séparer ceci.
Merci Tina. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oliver, coprésident du groupe de travail sur l'ITF. J'ai vraiment aimé vos deux premières remarques sur le transparent. Oui, on ne nous a pas clairement exprimé quelles étaient les demandes pour l'IDN, mais nous voulons vraiment savoir, connaître, avoir une bonne déclaration de problème. Les problèmes locaux, mais nous voudrions une description des problèmes qui puissent servir à toutes les régions du monde. Dans le groupe de travail, nous n'avons pas encore signé pour tout nouveau travail. Tout nouveau travail organisé dans le programme de résolution des problèmes prendra très longtemps. Si l'on voit simplement l'exemple de DNSSEC, ça nous en donne une petite idée. Et donc, du côté des dispositions, c'est là que l'action doit se placer. Et si vous réalisez un test, j'espère que vous essayerez les solutions de nom de domaine qui s'appelle Replica. Ceci pourrait créer un contrat ICANN parce que pour l'instant, les TLD ne sont pas autorisés à travailler avec ce type de serveur. Mais il y aura d'autres propositions qui seront émises. Et donc, je ne peux pas vous donner de garantie sur la durée du travail. Mais aussitôt que nous avons la déclaration de problème, eh bien, tout ira mieux. Très bien. En ce qui concerne les D-names, C'est tout à fait en conformité avec ce que vous disiez. Nous devons trouver ce que nous cherchons avant même de pouvoir effectuer des tests. Donc nous verrons comment nous ferons ceci rapidement. Merci Tina, je suis Verstappen. J'aimerais faire des questions ou des commentaires sur la capacité. Au cours des dernières années, je me suis quelque peu préoccupée du temps qui était imparti pour le respect des mises en œuvre des IDN. Bien sûr, maintenant, nous avons de nombreuses indications sur la source de ceci, et l'une des questions porte sur ce que vous avez dit auparavant. Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucun usage frauduleux, par exemple une demande de TLD ou et je suis quelque peu inquiet en ce qui concerne le document que la communauté ICANN a produit. Il s'agit de calculs très techniques concernant des règles très détaillées plutôt que de spécifier des principes qui ne sont pas forcément aussi objectifs mais qui vont dans le sens de ce que faisons. Par exemple, lorsque vous parlez du gaming, quelqu'un qui reçoit un nom de domaine qui ne lui était pas forcément destiné, eh bien, il faudrait qu'une description technique existe et essayer de savoir si nous essayons de respecter l'intégrité culturelle de la langue. C'est similaire. C'est également une occasion de simplifier le langage. Évidemment, ceci au détriment de ceux qui doivent l'interpréter, mais c'est beaucoup plus simple. Très bien. Laissez-moi clarifier ce que j'ai dit sur le gaming. Lorsque j'ai posé la question, aujourd'hui, nous n'avons qu'une règle pour la génération des tableaux IDN. Ce n'est pas ICANN qui le régule, c'est une décision locale. C'est-à-dire que l'on peut inclure des variantes comme il nous plaît. C'est-à-dire que si nous permettons des délégations de variantes de TLD, nous pourrions avoir un grand nombre de TLD. Ensuite, les questions sur les variantes, sont-elles vraiment utiles? Est-ce qu'elles peuvent être déléguées? Donc, je pose la question. Et donc, devrions-nous avoir des règles sur la génération des IDN? Je pense que c'est une question importante pour notre communauté. C'est tout ce que j'ai essayé de dire. Oui, j'essayais en fait de répondre à cette question. En quoi ces règles doivent-elles consister? Est-ce qu'elles doivent être complexes et techniques ou doivent-elles simplement représenter l'esprit de ce que nous faisons? C'est-à-dire le respect de l'intégrité, le respect des cultures, plutôt que le fait de faire plaisir à un certain type de phénomène, de modèle. Oui, bien sûr, c'est la direction que nous devrions prendre. Encore une question au micro. Y a-t-il quelqu'un dans la participation à distance? Non? Une question au micro, une question à la table et ensuite un résumé pour que nous puissions sortir et nous préparer pour le gala. Merci, Tina. Premièrement, j'aimerais vous remercier sur les efforts menés en termes d'IDN. Merci aux différents docteurs pour leur expérience dans la gestion des IDN. Et merci pour les expériences chinoises. Une question sur...
Donc c'est une question qui concerne la contention de la chaîne et la confusion de la chaîne. Et qui va, dans une question de litige, qui va faire la révision pour les TLD IDN? Ah, pour les GTLD. Ah, ce n'est pas une session de GTLD. Mais je sais, mais j'ai pris j'ai choisi la chance j'ai saisi l'occasion pour poser la question. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous répondre. C'est une question que vous devez poser dans un atelier de GTLD. Je ne peux pas prendre la chance de vous répondre, le risque de vous répondre. André, est-ce que vous avez une question? Je voudrais une question rapide, vous dire merci Tina. Merci parce que vous avez fait un très bon travail avec le projet de la procédure accélérée et IDN. Et nous sommes très reconnaissants pour vos efforts et votre travail pour rendre ceci une réalité. Et c'est réel. Ça fonctionne. Ça n'a pas vraiment été très long. C'était vraiment une procédure accélérée. Maintenant, il faut que nous donnions une solution aux dernières questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un du panel qui a un commentaire, un commentaire? Nous pouvons, concernant la réunion que nous avons eue avec les autres, avec les ETF, je suis convaincue qu'il y aura une solution au problème de variantes d'IDN. Je crois que ce sera un travail à long terme, mais je pense que nous y arriverons. Je suis certain et convaincu qu'on trouvera le moyen d'y arriver. Je vais vous, donc permettez-moi en une minute de vous montrer, de vous présenter les prochaines étapes. Sur le site de l'ICANN, vous pouvez voir cette page. Nous allons essayer d'établir un plan de projet, une proposition de plan de projet pour continuer à travailler sur les variantes, y compris les définitions, etc. Nous allons rassembler toutes les informations qui ont été dites dans les commentaires publics ici et pendant la semaine, pour que nous puissions donc après, par la suite, soumettre cette proposition de plan à vos commentaires. Et j'ai mis sur la le transparent le fait qu'il y avait beaucoup de groupes de travail et de regroupements de l'ICANN qui sont intéressés et travaillent dans ce domaine. La procédure accélérée était réussie parce que la communauté a collaboré et s'est réunie. Nous avons besoin d'un groupe de travail du Conseil qui nous soutient et il faudrait que nous tirions parti de tous les groupes et de tous les membres qui sont intéressés et qui ont la volonté de nous aider. Je pense que ceci conclut l'atelier d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses qui fonctionnent de manière parfaite. Je voudrais féliciter encore une fois les 4 pays qui sont en ligne, donc, avec leurs IDN. Et nous allons continuer à travailler dans ce domaine. Merci. Merci pour les participants à distance. Et merci pour les participants ici dans la salle. Et peut-être ceux qui vont au gala, les bus quittent le premier bus part à 18h à 18h dehors devant le bâtiment du square.